On rentre dans une nébuleuse, c'est le monde de la communication. Bonjour Christian Lavilluchet.
Bonjour Pierre.
On fait un métier compliqué, hein, un métier de communication, de la pub, les gens ne comprennent pas exactement ce que l'on fait. Tu défends une grande maison à Havas, la grande maison à Havas, on prend un peu d'hélicoptère view, ça se situe où au niveau mondial, ça fait partie des top 5
Ça fait partie des top 5, si voilà. Tu veux, il y a une grande concentration dans ce métier, il y a WPP, Omnicom, Interpublic, Publicis et nous.
Voilà, donc Publicis et nous, et quand je dis Havas, c'est un groupe français. Je rappellerai que c'est Euro-RCG, le plus connu, évidemment, c'est Jacques Séguéla. Hein. Si ne dites pas que je travaille dans la pub, ma mère me croit pianiste de bordel. Et l'autre phrase aussi, si vous n'avez pas 50 ans, vous n'avez pas de Rolex, vous avez raté votre vie. Ça, c'est les deux grandes punchlines de Jacques Séguéla. Donc, on connaît.
Il y a aussi la force tranquille, pour
ouais,
François
voilà,
Mitterrand, qui
voilà.
A été un petit peu plus productive voilà. Que la phrase malheureuse.
Exactement.
Sur la Rolex.
J'ai eu le plaisir de travailler, je me suis rendu compte qu'il vivait encore avec Thierry Sossé, qui était son bras droit. Et donc, c'est une belle aventure. Tu es dans la maison Euro-RCG à Havas depuis longtemps, hein, Christian?
Plus de 25 ans.
Plus de 25 ans, et tu es à Bruxelles depuis, tu vas fêter ta 20e année.
Exactement.
Voilà, on dit que toujours qu'on pleure, comme dans les ch'tis, quand on arrive, on pleure quand on repart. Quel est ton premier souvenir de Bruxelles? Qu'est-ce que tu dis? Tiens, il y a un truc différent.
Alors, c'est amusant que tu me poses la question. Mon premier souvenir de Bruxelles, je suis avec... Premier souvenir de Bruxelles, y travaillant, hein, parce que j'avais plein de souvenirs avant.
Ouais.
J'ai même connu le TE, et je venais pour une
journée. Mon Dieu.
Voilà, mais à un moment donné, j'y arrive, je m'y installe. Et mon associé de l'époque, Daniel Van de la Solar.
Oui, bah, donc on connaît bien, on se rappelle les grandes, ceux qui les plus souviennent, les anciens sont bien, les belles pubs en noir et blanc de Spa, c'était lui, voilà.
Exactement, et il est pour beaucoup dans ma venue à Bruxelles, parce que quand on m'avait donné la possibilité de diriger cette entreprise, à l'époque, j'avais dit, moi, un, je ne suis pas belge, deux, je ne connais pas la création, je suis manager, donc il me faudrait un créatif. Et j'avais proposé à Daniel de venir nous rejoindre, parce que j'avais gagné avec lui Côte d'Or auparavant, dans une autre fonction. Et Daniel me dit, il faut quand même que je t'emmène à Bruxelles, dans le centre-ville et tout. On va dîner dans, je crois, la Galerie de la Reine.
Ça doit être la Taverne du Passage,
un truc comme ça. Exactement, la Taverne du Passage.
Qui a été reprise, c'était tombé en faillite, c'est repris.
J'ai lu ça, et alors... Je lui dis, c'est quand même hallucinant, on est dans le centre-ville, je pensais que c'était moyenâgeux, et je voyais des centres sociaux, des buildings à côté de la cathédrale de Sainte-Gudule. Il me dit, ah ben Christian, ça c'est la bruxellose,
ouais.
C'est le paradoxe de cette ville, si tu veux, et quand tu vas la découvrir et que tu vas y vivre, tu vas t'apercevoir que c'est la juxtaposition de communautés, d'architecture, de mondes qui n'ont rien à voir. Et j'ai eu l'occasion depuis de rencontrer évidemment plein de gens à Bruxelles, dont... Le bourgmestre, à qui je dis souvent quand je le vois, c'est la ville la plus exotique d'Europe. Alors il me regarde, il me dit, mais pourquoi est-ce que tu me dis une chose pareille? Et je lui dis, pas parce qu'il y a des palmiers, il n'y en a pas, mais parce que l'exotisme, c'est un peu comme la créativité.
194
ouais,
nations.
L'exotisme, c'est comme la créativité, c'est quelque chose qui vous surprend parce que c'est nouveau. Et je trouve que toutes les villes se ressemblent, que la mondialisation a tué le charme des villes, et que Bruxelles est à nul autre pareil. Je me promenais hier dans la rue parce que je cherchais un restaurant pour un ami espagnol, pas loin du bureau. Je suis tombé sur le nouveau centre administratif de Bruxelles, gigantesque et très beau, en plein centre-ville. J'ai pris une photo. Il n'y a pas beaucoup de villes dans lesquelles je m'arrête pour prendre des photos, surtout quand on y habite depuis 18 ans.
Voilà, on ne sera pas d'accord avec Daniel. Moi, j'appelle ça la bruxellisation, il appelle ça la bruxellose. Mais la vérité est au milieu. C'est un peu le surréalisme. Là, on va s'écouter un peu de musique, Christian. Et puis, on va se retrouver. On séquence toujours tout ça, mais on a le temps on va prendre le temps avec un bon décafé inné. Et donc, de parler du monde de la communication, qui est en général le premier pare-choc de toute crise économique. Hein. On est avec Christian de Lavilluchet, qui est l'heureux patron d'un groupe Havas. Je rappelle, un groupe Havas, c'est un groupe assez important au niveau mondial. La pub, c'est essayer de comprendre ce que veut un client. Et puis, c'est des artistes contrariés, comme on dit, qui sont des publicitaires qui vont faire quelque chose pour qu'on essaie de retenir le message. Christian, dans le monde de la communication, 2000, c'était un choc économique, 2008, et maintenant, un troisième choc économique. Vous êtes encore là, et plutôt bien. Mais c'est le premier pare-choc, en fait, de toute l'économie, hein, la publicité.
Alors c'est le premier pare-choc, hein, on encaisse plus et on rebondit davantage, donc c'est aussi un trampoline. À la différence des deux crises que vous citiez, 2000 et 2008, la crise du Covid, hein, c'est une crise exogène, c'est pas une crise d'un système, c'est une crise qui est venue de l'extérieur.
Oui.
Et donc elle est extraordinairement soudaine, elle est extraordinairement violente, elle est extraordinairement longue, puisqu'on est au bout de 19 mois et on en parle encore, mais c'est une crise extérieure. Et du coup, les gouvernements, très très vite... Et les laboratoires pharmaceutiques prennent les bonnes mesures pour sauver l'emploi, pour éviter les faillites, pour installer un vaccin. Tout le monde critique tout, mais un vaccin qui a déjà été inoculé à des milliards de gens qui n'existaient pas il y a un an et demi, honnêtement, si on pouvait juste être un peu optimiste et positif, c'est remarquable.
C'est une belle prouesse. Mais les marques n'osaient pas s'exprimer, même celles qui marchaient bien. Il y a eu des gagnants et des perdants, comme dans toute crise, fatalement. Non, mais même ceux qui sont en train de gagner n'osaient pas s'exprimer. On n'a pas eu ce sentiment-là que les marques n'osaient pas prendre la parole.
Ben d'abord, il faut quand même se rappeler, je parlais de cette crise, pendant 3 mois, les gens sont terrés chez eux, les magasins sont fermés, c'est un tsunami sanitaire.
Donc, on
s'exprime sur quoi ? Et puis, on en parlera peut-être, ça a été un moment de réflexion pour les gens, pour les citoyens, pour les consommateurs, un moment de recentrage sur la famille, sur la maison, sur soi-même. Et donc, je pense que ça a amené les marques à peut-être être plus citoyennes, être plus prudentes sur les discours commerciaux, être plus éthiques. Et ce ne sont que des bonnes choses. D'ailleurs, vous savez, on fait une étude tous les ans qui s'appelle Meaningful Brand et qui montre ce que les gens attendent des marques, quels sont les risques aussi pour les marques. Et il y a 75-75% des gens qui nous disent on attend que les marques s'engagent pour la planète, on attend qu'elles s'engagent pour un monde meilleur. Je peux vous dire un truc, c'est qu'il y a 3 ans, ça aurait peut-être été 30 ou 35%. Donc il y a une vraie prise de conscience citoyenne et donc, comme vous le dites, il y a une réaction pour les marques.
Voilà, une grande histoire d'amour aussi. Publicis et Renault, vous, côté ECG, c'est le groupe PSA, c'est la concurrence. C'est une grande histoire d'amour, le groupe PSA, je rappelle qu'il devient de plus en plus grand. On retient un peu Peugeot et Citroën, mais ça s'agrandit. Donc c'est des longues histoires d'amour. Et on salue d'ailleurs des account managers dont certains malheureusement nous ont quittés physiquement, qui ont porté ces marques et qui ont été... C'est rare quand même.
C'est très rare et en même temps, je pense qu'il faut donner du temps au temps. Les grandes campagnes, ce n'est pas uniquement des grandes agences, c'est des grands partenariats. Il faut la confiance. La confiance, ça prend du temps. Il faut du crédit et de l'espace. L'espace, ça se conquiert. Et croire qu'il faut changer d'agence tous les 3 ans, c'est une erreur parce qu'il faut 1 an pour rentrer dans une marque. Et si vous savez qu'au bout de 2 ans et demi, vous êtes remis en compétition, à un moment donné, soit vous lâchez la bride, soit vous faites des choses qui sont... C'est un peu comme les politiques, pour être réélu ou pour ne pas perdre. Et donc, ce n'est pas forcément des choses efficaces. C'est des choses politiques qui font plaisir aux clients. Et donc, moi, je pense, et je ne suis pas là pour défendre mon métier, ce n'est pas le but de notre conversation, mais je pense que pour défendre les marques et non pas notre métier, il faut installer des relations longues et donc je trouve que c'est effectivement des belles histoires.
Et quand on est longue et durable, on va parler, tu l'as un peu évoqué Christian tout à l'heure, le côté green, donc c'est très important. Les jeunes veulent des choses qui ont du sens, les marques doivent avoir du sens et j'espère que tu vas me convaincre dans la publicité aussi, mais on travaille en circuit court et on donne du sens à tout ce qu'on entreprend. A tout de suite. Christian de la Villuchet, ça fleure bon la France, mais il est ici depuis 20 ans, presque un anniversaire de 20 ans. Le monde de la publicité travaille aussi, et je suppose est conscient que les jeunes veulent s'installer dans un métier où il y a du sens. Est-ce que dans votre agence, vous avez profité du Covid pour changer certaines choses ?
Alors, écoute, d'abord, on a au cœur de notre vision d'entreprise ce qu'on appelle « Make a meaningful difference to business, brands and people ». People, c'est qui ? C'est d'abord les employés de l'entreprise. Donc, on l'a chevillé au corps. On veut que nos marques aient du sens, mais c'est difficile, comme disait un yaourt bien connu, ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur. Mmh. Donc, c'est très, très sympa de raconter une histoire pour les clients, mais si tu ne le fais pas vivre à tes employés, ça ne marche pas.
Exact.
Donc, nous, donner du sens au métier, donner du sens au job, donner du sens à l'appartenance à Havas, c'est essentiel. On a un projet, je pilote d'ailleurs au niveau du groupe en Belgique, qui s'appelle Havas Positive Impact. Et l'idée, c'est d'aider à l'amélioration du monde, la planète, par la décarbonation, etc. L'amélioration des conditions de travail et des conditions de vie de nos salariés. Et puis aider nos clients dans cette transformation environnementale, dans cette transformation sociétale. Et puis tout simplement... aider aussi des causes, c'est pas forcément des clients, qui vont faire progresser la société. Je suis là depuis 20 ans, j'ai un de mes fils qui est né ici, qui est le dernier, qui a 16 ans. Et il m'a dit un jour, « Papa, est-ce que tu crois que la Terre nous survivra ?» Je n'ai pas souvenir d'avoir posé cette question à mon père, pour être très honnête.
Je vais sûrement poser la question, pourquoi le ciel est bleu
Mais est-ce que la Terre nous... Oui, moi aussi. Est-ce que la Terre nous survivra ? Et je me suis rendu compte, c'est parfois tu as besoin de choc, de la gravité ou du regard grave que jetait la nouvelle génération sur la finitude de la Terre. C'est une notion complètement nouvelle. On pensait
Absolument.
Qu'on était éternel. Eh ben, on n'est pas éternel. On a de grands risques devant nous. Et donc les jeunes veulent du sens. ils veulent préserver les acquis, ils veulent du sens. Les marques doivent les accompagner, mais les employeurs doivent les accompagner. D'où l'importance, en tant que chef d'entreprise, de mener ce combat.
Très bien, Christian, on va poser une petite question. Est-ce que tu es capable de revenir demain matin pour prolonger cette interview ?
Avec plaisir.
Oui, mais voilà, on se retrouve demain matin. Et on prolonge enfin, on fait comme si c'était le lendemain matin. Eh bien, on n'avait pas fini hier avec Christian Nabiluchet. On parle de communication parce que c'est un monde un peu nébuleux. Hein. Le monde de la communication, c'est la publicité. On est différent des publicitaires et des publicistes. Hein. On essaie de rendre quelque chose sympathique. C'est ça, hein, Christian Nabiluchet. Et en plus d'avoir un impact sur le cerveau ou sur l'attitude, en fait. Hein.
Ah. Est-ce qu'on veut toucher le cerveau pour que le cœur agisse ou est-ce qu'on veut toucher le cœur pour que le cerveau agisse ? Ce n'est pas les mêmes logiques.
Ben non.
C'est d'ailleurs assez amusant parce qu'en Belgique, il y a un peu les deux. Si on caricature, moi j'ai un regard forcément belge parce que je suis là depuis 18 ans et puis international parce que ma fonction l'est et puis parce que je ne suis pas belge. Je dirais qu'au nord, on touche peut-être plus le cerveau pour que le cœur agisse et puis au sud, on touche peut-être plus le cœur pour que le cerveau agisse.
C'est un peu caricatural. Il y a un côté latin-germain,
voilà,
on est bien.
C'est un peu binaire, mais ça permet de dire que finalement c'est un pays intéressant par sa richesse, par sa diversité, par sa multiculturalité.
Est-ce que c'est intéressant, justement, tu défends plutôt l'international. Est-ce que j'ai toujours considéré, je le pense, et je ne sais pas si tu partages mon avis, que la Belgique est un magnifique laboratoire pour des budgets internationaux. Si ça marche en Belgique, ça marchera partout ailleurs.
Je suis complètement d'accord avec toi, parce qu'en réalité, les grandes idées sont des idées qui doivent traverser les cultures, les continents, les races, les ethnies. On adore diviser aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant de regarder ce qui rassemble plutôt que ce qui divise. Et la Belgique, c'est un laboratoire. La ligne de démarcation entre le monde anglo-saxon et le monde latin, elle est peut-être 5 km au nord de notre studio.
On est parfois obligé de se parler en anglais entre flamand et français, parce qu'il y a des gens comme toi qui ne parlent pas flamand, et donc on parle français, on parle anglais. Ça arrive, hein ?
Mais bien sûr, et à partir du moment où la ligne de démarcation culturelle est entre les deux, elle, je te dis, pas très loin de là où on est tous les deux ce matin, il faut pouvoir s'adresser aux deux communautés. Si on s'adresse à des communautés aussi différentes, aussi disparates, à mon avis, on est capable de s'adresser à l'ensemble des Européens, voire à l'ensemble du monde. Comme je le dis souvent, Titanic, il n'y a qu'une version dans le monde. Il n'y en a pas 42. Pourquoi ? Parce que c'est une magnifique histoire d'amour universelle, avec le combat social qui est au cœur et la tragédie. Ce sont des choses qui sont aussi fortes au Pérou qu'elles le sont en Finlande, en Belgique, qu'elles le sont en Roumanie. Et donc la Belgique est un laboratoire, parce que si on est capable d'adresser toutes les communautés belges, eh ben on est capable d'adresser toutes les communautés mondiales.
Un petit décal de la musique, et puis on va essayer d'encourager les jeunes à exciter, à venir dans ce milieu de la pub, qui est un milieu fantastique. Toujours avec Christian Nabiluchet, patron de Havas. Havas, c'est un important groupe situé au niveau mondial. Bonjour Christian.
Bonjour.
Les jeunes reviennent encore à la pub, ou bien je vois que la moyenne d'âge est très très jeune maintenant. Quelle est la meilleure formation pour être publicitaire, en fait, selon toi ?
Je crois que la meilleure formation, c'est la curiosité. C'est-à-dire de regarder le monde qui nous entoure et de se dire, tu le disais tout à l'heure d'ailleurs en définissant la publicité, comment est-ce qu'on peut toucher les gens ? D'abord, les toucher, c'est les comprendre, c'est les regarder, c'est les respecter. Et c'est non pas leur dire ce qu'ils veulent entendre, ça c'est la démagogie et le populisme, leur dire ce qui va vraiment les faire bouger, que ce soit le cerveau ou le cœur. Et je pense que la meilleure formation, bien sûr, c'est d'avoir une formation académique qui permet de structurer sa pensée, qui permet de savoir organiser une réflexion, qui permet de la vendre à des clients. Mais ça, c'est la forme. Le fond, c'est la curiosité. Moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce métier, c'est que c'est un métier de production. Nous produisons des idées qui sont sur les banners, qui sont à la télé, qui sont partout où on fait de la communication, mais en même temps, très éphémère. C'est-à-dire que quand une marque va fabriquer un produit qui va durer 10 ans, ou 5 ans, ou 2 ans, peut-être qu'il va falloir 15, ou 20, ou 30, ou 100 actes de communication pendant cette même durée de vie. Et donc, un peu comme les médias, qui sont un métier industriel, tu le sais, pour animer une radio, mais renouvelé en permanence, on produit du contenu, mais on le change. La publicité, c'est un métier industriel, c'est pas comme le consulting où on produit des PowerPoint. Là, on produit des idées, on produit des réalisations, mais on les change tout le temps. Je trouve que pour des jeunes, pour se former, s'ouvrir au monde et faire des choses, parce que la nouvelle génération, elle n'a pas juste envie de penser et de regarder, elle a envie de faire et d'agir, je trouve que c'est un super métier.
Voilà, curiosité, proactivité, et puis le côté, vous avez fait l'étude de Sciences Po, vous êtes très bienvenu aussi, vous pouvez servir de rendre grand service à vos clients.
Exactement.
Le premier annonceur de Belgique, c'est l'État belge, faut-il le rappeler aussi. Au contraire, on l'oublie souvent, mais c'est le premier annonceur de Belgique au niveau investissement. Eh bien, on va terminer une petite page musicale, et puis on va se retrouver, Christian, pour dire à un moment, tu vas raconter de belles histoires, parce que tu en as plein, hein. les belles histoires de la pub et donner l'envie de s'y intéresser. Christian Avilucher est parmi nous. Je rappelle que quand on dit qu'on est banquier, en général, les gens ne font pas en arrière. Ça arrive aussi avec le métier publicitaire, parce que les gens ne le comprennent pas. On a l'impression qu'il y a un peu un travail de fumiste. Quelles sont tes belles histoires depuis le début de ta carrière, et en Belgique ou ailleurs? Quelles sont les vraiment, à un moment, je dis « Waouh, je suis content d'être là, je suis content de faire ce que je fais ».
Oh ben j'ai eu des rencontres absolument magnifiques, j'en rencontrerai une. J'ai eu la chance de rencontrer le directeur marketing d'ING à un moment difficile, parce que c'était entre les deux crises de 2000 et 2010. Et ING était une marque qu'on positionnait comme le disrupteur et comme on appelait ça le déstablisher, c'est-à-dire celui qui déstabilise l'establishment. J'ai eu la chance de rencontrer un directeur marketing que je cite, qui s'appelle Philippe Ouellet, qui est devenu un ami. Et on a fait pendant 4 ans ensemble les campagnes les plus incroyables, qui gagnaient plein de prix pour ING. Et quand je disais tout à l'heure, il ne faut pas une bonne agence, il faut une bonne équipe, je ne sais plus qui était le directeur de création et qui était le client. Est-ce que c'était lui, est-ce que c'était moi? Mais on travaillait main dans la main. Ça, c'est une histoire formidable.
Voilà, se mettre du même côté de la table, en fait, hein, regarder dans la même direction. Donc c'est un peu ce côté intelligence. Parfois, il y a des idées qui vous paraissent idiotes, mais les idées les plus simples sont les plus compréhensibles, mais parfois les plus difficiles à trouver. C'est quoi l'avenir du monde de la communication et de la pub? Quelle est ton intuition là-dessus?
D'abord, je pense que c'est un avenir rayonnant, pour une raison simple. Je pense que, à contrario de la pensée unique, il y a de plus en plus de marques. Il n'y en a pas de moins en moins, et notamment beaucoup de marques qui sont nées de l'Internet. Il y a de plus en plus de canaux de communication, c'est une évidence.
Voilà.
Et il y a de plus en plus de gens en situation d'acheter. Et donc, si on regarde mathématiquement, de plus en plus d'émetteurs, de plus en plus de récepteurs et de plus en plus de canaux pour les lier, forcément la communication va continuer à se développer. Après, ça ne veut pas dire que ça va être de la publicité comme on la faisait, toi et moi, il y a 30 ans, sur grand écran.
Voilà.
Tu vois, je pense qu'il y a un enjeu, c'est un enjeu conversationnel, de dialogue. Un dialogue, c'est pas simplement t'envoyer un email parce que je t'ai écrit à toi personnellement, c'est aussi t'écouter et échanger. Et je pense qu'il y a un enjeu expérientiel. Il y a de plus en plus de marques qui sont nées de la révolution Internet,
bien sûr,
qui existent par l'expérience qu'elles t'offrent. Elles ne font pas de communication. Quand je vais quitter ce studio et je vais peut-être commander un Uber, je vais aller sur une application, je vais pas avoir de la pub, mais je vais expérimenter une interaction avec une marque qui s'appelle Uber par un produit, un service qui est une application. Et je pense que maintenant que ces standards ont été créés par ces marques-là, toutes les marques y viennent. Et les marques sont obligées d'avoir une relation expérientielle avec leurs audiences. Et la communication va basculer vers ça. Parce que c'est aussi une manière d'avoir une relation proche, d'avoir une relation personnelle, de capter de la donnée, de pouvoir, à un moment donné, restituer cette donnée dans un dialogue qui est personnalisé, et puis d'échapper aussi à la publicité, parce que c'est compliqué d'exister quand il n'y a pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de temps et pas beaucoup d'attention du consommateur. L'expérience, à la limite, elle est plus longue, elle est plus individualisée, elle est plus intime, et donc pour les marques, c'est plus facile.
Très bien, merci pour cette on aurait pu discuter des heures, hein, mais il y a un moment, il faut s'arrêter, c'est comme ça. Je rappelle Havas, Christian Avilucher, merci de ton partage, et puis je ne sais pas pourquoi, mais je sens que tu vas revenir.
Merci de m'avoir invité, Pierre, c'est toujours un bonheur, et c'était sympa de te revoir.
Avec plaisir.